Il est 13h47 minutes. Eh bien, un commando israélien a réussi, en fait, c'est plus qu'un, là, c'est quelques commandos israéliens ont réussi à évacuer environ 800 casques blancs et leurs familles vers la Jordanie. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Les casques blancs, donc, sont des secouristes volontaires, là, qui sortent des survivants, des décombres, des édifices qui ont été bombardés par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et le Canada pourrait accueillir une bonne partie de ces rescapés pour se faire expliquer un peu quelle est l'action de ces casques blancs et qui ils sont en réalité. Sami Aoun est professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, M. Aoun.
Bonjour.
Alors, d'abord, pourquoi est-ce que c'est Israël qui a procédé à cette évacuation-là?
C'est à la demande pressante de pays européens, notamment la Grande-Bretagne et l'Allemagne et le Canada, ainsi que la France, mais surtout aussi à une demande formelle qui est venue des États-Unis et que Israël, qui est un pays limitrophe et qui a quand même des moyens assez impressionnants pour les sortes d'évacuations et surtout avec une certaine protection pour les évacuer. Mais Israël a répondu à une demande, mais c'est la Jordanie qui est vraiment le lieu de rassemblement. Et la Jordanie l'a accepté parce que, justement, ces pays européens, et le Canada en particulier, se sont engagés fermement que d'ici 3 mois, ils peuvent ouvrir leurs propres portes pour donner soit l'asile politique, soit la résidence à ces secouristes et aux membres de leur famille.
Bon, qui sont exactement les casques blancs? On a vu des reportages, entre autres, j'ai vu à Netflix, si vous avez la chance d'aller voir ce reportage-là, j'ai écouté ça il y a quelques mois de ça, et on voit vraiment leur action. Ils vont dans les décombres, sortir les gens après les bombardements. Ce sont des espèces de pompiers des décombres, si je peux m'exprimer ainsi jusqu'à un certain point.
Oui, vous avez raison de souligner l'importance de ce documentaire qui a quand même été fortement apprécié, été candidat à différentes médailles et honneurs. Mais l'autre point, c'est que cette idée des casques blancs est venue justement de la société civile britannique et d'un certain ancien de l'armée britannique, Jacques Le Mesurier, qui a lui-même initié cette idée. Et par après, il y a eu des entraînements, des initiations, des encadrements qui sont venus soit de la Turquie, soit d'autres pays européens comme la France et l'Allemagne. Et le point où il est important, les casques blancs se rapportent à leur propre milieu, à leur propre campagne, leur propre village, leur propre ville. Et puisque ces régions sont des régions rebelles contre le régime Assad, alors pratiquement, il partageait avec lui quelques convictions, soit idéologiques. Mais il n'est pas d'ici cohérent et vraiment prouvé de dire qu'ils sont enrôlés par des factions islamistes ou terroristes comme Al-Qaïda ou le groupe d'État islamique Daesh. Ouais. Ils ont peut-être des sympathies anti-régime Assad, mais pas nécessairement. Ils ont trahi leur mission, comme vous le dites si bien, de porter rescousse à leurs propres voisins et à leur propre milieu.
Est-ce que ce sont des bénévoles, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont payés ou ce sont des gens qui le font véritablement comme volontaires là, pour aider leur milieu?
Oui, c'est un peu pareil à l'instar des secouristes de la Croix-Rouge ou d'Amnesty International ou Oxfam ou d'autres ONG. Mais certainement, pour la plupart, sont plutôt des volontaires et qui ont reçu des aides, des enveloppes, peut-être dans l'aide internationale qui a été fournie à la Syrie. Ici, il faut le remarquer bien que l'Occident en général et les démocraties particulièrement n'ont pas été à la hauteur de leur obligation morale d'arrêter cette guerre, cette tragédie en Syrie avec ses cruautés. Et par contre, cet Occident qui a failli peut-être au niveau moral, il a fait ce bémol de faire des aides humanitaires assez éparpillées.
Mais le fait, en fait, qu'ils soient évacués des zones de combat, dans le fond, ça vient pas un peu démontrer que, finalement, Bachar el-Assad a gagné cette guerre-là?
Ah, certainement, pour l'instant, le régime Assad a pu survivre. Il est en train de se recycler avec un appui inconditionnel de la Russie et de l'Iran. Et cet axe russo-iranien, particulièrement, est le responsable premier de cette victoire, pour l'instant militaire,
Oui.
du régime Assad. Il faut voir maintenant comment on pourrait avancer sur la réconciliation politique. Disant ce point, c'est vrai, le régime Assad a repris le contrôle des frontières israélo-syriennes et le plateau du Golan occupé. Il a repris le contrôle des frontières avec la Jordanie et il lui reste maintenant une région, la région kurde, qui est sous droit de regard américain avec une alliance rapprochée entre Américains et Kurdes, qui est à peu près 30% de territoire syrien. Et il y a une région au nord qui est plutôt sous un droit de regard turc, avec un certain déploiement militaire turc, et qui est la province de Idlib, qui est autour de 10 à 15%. Alors il faut voir qu'est-ce qui va arriver dans les autres
Ouais.
phases de cette guerre.
Bon, là, ils ont été amenés en Jordanie. Bon, on comprend qu'il y a peut-être un groupe qui n'a pas réussi à être évacué finalement vers la Jordanie. Il arrive quoi par la suite avec ces gens-là? Ils vont être en fait acceptés dans différents pays. Le Canada va en prendre une certaine partie. Il y a la France aussi, je pense.
Oui, certainement. La Grande-Bretagne qui a
Ouais.
aussi engagé en ce sens. Aussi, il y a l'Allemagne aussi qui s'est engagée. Mais il y a une partie qui a été évacuée dans des corridors un peu plus sécuritaires vers le nord et vers la Turquie à peu
Ouais.
près. Mais ils ont toujours un certain mandat dans d'autres régions, même si la guerre a bien décliné, a perdu de son intensité dans la plupart des grandes villes syriennes en faveur du régime Assad.
Ouais. Il y a toujours ce fameux questionnement, est-ce que ce sont des gens qui représentent un risque dans les pays qui vont les accueillir?
Ça, il faut certainement être tributaire et confiant que les instances de l'immigration canadienne, des agences de sécurité officielles, qui peuvent vraiment nous assurer et s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va infiltrer ce groupe. Le Canada a déjà des mécanismes qui ont accueilli 40 000 Syriens, mais cette appréhension est de mise, elle est de rigueur. On le voit ici et là en Europe, que c'est plus la politique des portes ouvertes pour les immigrants et les réfugiés, et surtout que nous sommes sous l'influence en général de la propagande russe et ou de la campagne russe
Ouais.
qui a ciblé ces casques blancs en disant qu'ils sont enrôlés, endoctrinés en faveur des groupes terroristes islamistes en particulier.
Est-ce qu'on peut présumer de ce qui serait arrivé s'ils étaient restés là-bas?
Certainement, il y a maintenant en Syrie une opération qu'on pourrait appeler de redesign, redestination démographique et qui pourrait prendre des formes parfois du nettoyage ethnique ou
Ouais.
ethno-confessionnel. Et cela est déjà bien mesurable sur le territoire syrien où on voit que la communauté alaouite, par exemple, se replie sur elle-même, les Kurdes, et ainsi les arabo-sunnites. Alors, il se pourrait que quelques-uns parmi eux vont se référer à leur majorité confessionnelle ou sectaire. Mais c'est ce qui est pour l'instant et dans le passé proche. Mais est-ce que dans l'avenir, les Syriens vont réussir à rebâtir leur État-nation, leur
Ouais.
Identité syrienne et leur harmonie citoyenne? Ça, c'est,
C'est
nous
la grande
sommes déjà
question.
précoces, oui.
Merci, M. Aoun, d'avoir été avec nous.
Au plaisir, monsieur. Au
Au
revoir.
revoir. Sami Aoun est professeur à l'Université de Sherbrooke. Il est également directeur de l'Observatoire Raoul d'Enduran. On fait une brève pause. On revient tout de suite après avec la suite.